Chronopost, aux côtés des entrepreneurs. Les projets de développement hors de nos frontières se font rarement à la légère ou en solo. Pour toutes les PME françaises, Chronopost est le bon partenaire. Avec Chronopost, les entreprises ont l'assurance de bénéficier d'un accompagnement expert, de procédures éprouvées et de solutions d'expédition souples et compétitives. Force de proposition et solidaire, nous sommes à leur côté en France et à l'international. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, 13h, 14h,
le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europa 1.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde jusqu'à 14h. On est ensemble, on vadrouille, on écoute le monde changer. Avec une première étape en Pologne, vous avez sûrement repéré depuis quelques semaines, les femmes sont très mobilisées là-bas. Elles manifestent tous les jours depuis qu'une décision du tribunal constitutionnel a contourné le Parlement pour rendre l'interruption volontaire de grossesse quasi impossible. Énorme débat de société là-bas, sous-tendu par le poids de l'Église omniprésente. Deuxième étape, on sera aux Baléares. Dans la douceur de l'automne sur l'île de Majorque, on va y rencontrer des nomades numériques. Ils sont plutôt jeunes, sans enfants et ont décidé d'aller travailler au soleil, une tendance renforcée par la pandémie. On ira aussi ensemble en Argentine. Buenos Aires déconfine après plus de 7 mois de restrictions. C'est l'un des plus longs confinements au monde et on va l'entendre, ça laisse des traces. La santé mentale des Argentins en a pris un coup. Et puis dans un tout autre genre, je recevrai un photographe, Stéphane Gladieux, ancien grand reporter. Aujourd'hui, il a trouvé sa voie artistique dans le portrait et signe un livre de photos très étonnantes et esthétiques sur la Corée du Nord. Au chapitre des chroniques, Eva Rock viendra à mi-parcours des carnets nous conseiller une série américaine dont le cadre est le mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Quant à Joseph Chovanec, il nous emmènera sur des frontières étranges et rigolotes. Les carnets sont ouverts et c'est vers la Pologne qu'on se tourne d'abord.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Depuis près d'un mois, les manifestations sont quasi quotidiennes en Pologne, dans presque toutes les villes du pays. Une mobilisation remarquable provoquée par la décision du tribunal constitutionnel le 22 octobre dernier. Les juges ont décidé de restreindre un peu plus encore le droit à l'avortement, la loi polonaise étant déjà parmi les plus restrictives d'Europe. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour Sophie.
Vous avez mené une enquête, contacté un grand nombre de Polonaises et quelques hommes aussi, pour nous expliquer aujourd'hui les normes en jeu de société qui se jouent en Pologne. Ça va même au-delà du droit à l'avortement, hein, on va l'entendre. La nouvelle restriction, c'est que l'IVG n'est plus autorisé en cas de malformation du fœtus, seulement après un viol ou un inceste ou s'il y a un risque pour la vie de la femme. Et de fait, c'est presque la totalité des avortements qui est désormais interdite.
Oui, parce qu'en Pologne, environ 1000 avortements par an sont officiellement pratiqués et 98% d'entre eux le sont pour malformation du fœtus. Mais par ailleurs, les associations féministes chiffrent à plus de 200 000 les avortements illégaux pratiqués en Pologne ou à l'étranger.
Alors comment font ces femmes qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi lorsqu'elles ont recours à la pilule abortive?
Si le stade de leur grossesse le permet. C'est la solution qu'elles préfèrent, d'autant que ça leur permet d'être discrètes. La pilule abortive permet d'avorter chez soi, un avantage considérable dans un pays encore très divisé sur la question. Ce qui est compliqué, c'est qu'un véritable trafic s'est mis en place. Les offres se multiplient sur Internet et les femmes parfois ne reçoivent pas leurs commandes ou bien les pilules se révèlent totalement inefficaces. C'est arrivé deux fois à Justina avant qu'elle n'entre en contact avec une association qui l'a aidée à acheter de vraies pilules abortives. Je cherchais des pilules sur Internet. Et il y avait tellement d'informations. J'avais peur, parce que je savais que le temps passait. Et j'avais peur de saigner beaucoup. J'avais peur de ce qui allait se passer si je devais aller à l'hôpital. Je me demandais ce que j'allais dire. Parce que c'est une petite ville. Et qu'est-ce que j'allais dire aux personnes qui me connaissaient ? Et en même temps, j'avais honte de garder ça tellement secret. Et à partir du moment où j'ai avorté, ma vie a changé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, comme moi, qui avaient tellement peur. Donc je me sens obligée de partager mon expérience pour leur montrer qu'on peut vivre avec ça. Nous sommes des gens normaux. On n'a pas une sorte de signe sur la joue que tout le monde verrait. On est des bonnes personnes.
Alors, petite précision, en Pologne, les femmes ne sont pas pénalisées si elles avortent. En revanche, les médecins ou toute personne qui les aurait aidées peuvent être poursuivies et en cours de la prison.
Oui, et ça renforce la solitude des femmes. Certaines se disent même qu'elles doivent éviter les hôpitaux et les échographies, ouais. Car si une grossesse est diagnostiquée et que la mère souhaite avorter, elle devra se justifier et présenter un certificat de fausse couche signé par un médecin. Mais les praticiens sont frileux et les femmes sont seules.
Des associations leur viennent tout de même en aide, vous l'avez dit, en fournissant des informations sur les pilules et sur les démarches pour bénéficier d'une IVG à l'étranger.
Oui, les associations en Pologne sont en lien avec la Slovaquie, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où d'autres militants organisent le voyage et participent au financement. Ça coûte quand même entre 400 et 5000 euros selon le stade de la grossesse. Et même si généralement tout se passe bien, la démarche reste très douloureuse et stigmatisante pour les femmes. Écoutez ce que m'a expliqué Mara, qui travaille en Angleterre. Elle est membre d'Abortion Without Borders. Comprenez avortement sans frontières.
Nous ne pensons pas qu'il y ait de bons et de mauvais avortements, mais il y a une différence entre celles qui choisissent d'avorter et celles qui ont une grossesse voulue mais qui tourne mal. Donc vous prenez une femme qui avait une grossesse voulue, qui tourne très mal, et vous lui dites qu'elle doit quitter son pays, laisser sa famille derrière elle. Agir comme une criminelle et se mettre à la merci d'un hôpital étranger. Et la fin d'une grossesse, dans ces conditions, n'est pas une chose plaisante. Et vous savez, une des questions auxquelles nous sommes confrontés comme association, c'est comment ramener ce bébé à la maison pour les funérailles ? Nous devons aussi aider les femmes à traverser les frontières et rentrer avec le corps du fœtus.
Et depuis que l'accès à l'avortement a été encore restreint il y a quelques semaines, les appels aux associations ont doublé. Le nombre d'avortements à l'étranger a augmenté, le nombre de dons aussi pour aider ces femmes.
Oui, probablement parce que dans les manifestations, entre deux pancartes d'insultes au gouvernement, des femmes portaient haut le numéro de téléphone d'association comme Avortement sans frontières.
Alors, c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu, hein, cette colère, les insultes, les slogans des manifestants.
Oui, d'ailleurs, tous les Polonais à qui j'ai parlé de la mobilisation semblaient choqués par la virulence de ces slogans. C'est la guerre, allez-vous faire foutre, et plus vulgaire encore, une liberté de ton jamais vue là-bas. Inédit aussi, des messes ont été interrompues. Certains catholiques le vivent d'ailleurs, ces intrusions, comme de véritables agressions. Une femme m'a raconté une scène très révélatrice de l'affrontement idéologique en cours en Pologne. Des croyants célébraient une messe en plein air sur le parcours de la manifestation. Les participants se sont mis à crier leurs slogans et les croyants ont chanté plus fort et les manifestants ont hurlé par-dessus.
En fait, c'est le poids de l'Église qui est en jeu dans ce pays très conservateur.
Oui, cette mainmise est dénoncée parfois même par des catholiques ou des Polonais qui ne sont pas pour une totale libéralisation de l'IVG, mais qui trouvent que la mainmise de l'Église va trop loin. Il faut savoir que l'Église et l'État polonais sont liés par un concordat depuis les années 90, c'est dans la Constitution, et beaucoup de manifestants demandent la séparation de l'Église et de l'État.
Mais du coup, aujourd'hui, l'Église est omniprésente dans le quotidien des Polonais.
Oui, par exemple, il n'y a pas de mariage civil en Pologne, il y a des cours de religion à l'école ou des cours d'éthique, mais ils sont assurés par les mêmes personnes, missionnées par l'Église catholique et payées par l'État. Les jeunes filles doivent être accompagnées à tous leurs rendez-vous de gynécologie. La contraception n'est délivrable que sur ordonnance, tout comme la pilule du lendemain. Là encore, certains dénoncent le poids de l'Église. La restriction du droit à l'avortement, elle, était demandée de longue date par les évêques polonais au parti conservateur au pouvoir, le PiS, en échange de leur soutien électoral. Et le tribunal constitutionnel, qui leur a donné satisfaction, est lui-même très contesté car ses membres sont nommés par ce même pouvoir politique.
Voilà, le tribunal constitutionnel est d'ailleurs décrié par l'Union européenne qui l'a qualifié cet été d'organe de composition illégale, d'où le caractère contestable de ces décisions. Et donc on comprend pourquoi les revendications et la révolte vont bien au-delà du droit à l'avortement en Pologne.
Oui, dans la rue, des femmes et des hommes qui défendent pêle-mêle la démocratie, les droits des personnes LGBT ou l'égalité conjugale. La misogynie assumée du pouvoir révolte Magdalena et d'autres qui, comme elle, crient leur désarroi dans les rues.
Moi, je ne me sens pas libre dans mon pays. Je perds vivre dans mon pays. Et vraiment, les femmes, ce sont comme le sous-homme. On n'est vraiment pas le même citoyen que les hommes. Le mot que les gens en gouverne dit envers les femmes, qui ne sont pas rationnelles, que l'endroit des femmes à la maison, la responsabilité des femmes, c'est de coucher des bébés, de rester avec eux à la maison. Donc vraiment, ce sont des mots qu'on a pu entendre au Moyen-Âge. Donc ça, c'est vraiment c'est incroyable.
Mais Magdalena est un des exemples de femmes qui entrent en politique. Elles seraient de plus en plus nombreuses à vouloir prendre à bras-le-corps ces débats de société jusqu'au Parlement.
Ouais, notamment pour assurer une autre place des femmes dans la société. Comment réagit le gouvernement, Marion, le pouvoir en place face à cette mobilisation?
D'abord, en se servant de l'épidémie de Covid pour essayer de restreindre les manifestations et puis en faisant pression sur les professeurs qu'ils accusent à demi-mot d'encourager les jeunes à aller manifester.
Bon, alors, l'épidémie doit de facto dissuader certains de manifester.
Oui, sans doute. Et puis, il y a aussi la fatigue de quotidienne. Mmh. Les marches sont devenues hebdomadaires depuis lundi dernier. Le rythme de la mobilisation globalement ralentit.
Alors, tout le monde attend. La décision du tribunal n'a pas encore été publiée au journal officiel. Techniquement, donc, elle n'est pas encore applicable.
Oui, c'est déjà une petite victoire pour l'opposition, dont fait partie Wanda Nowicka, militante de longue date. Avant d'être députée du parti de gauche, elle a fondé la Fédération des femmes, l'équivalent de notre planning familial en Pologne.
Je pense que le PiS se rend compte qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils sont passés en force avec cette décision alors que l'épidémie prenait de l'ampleur. Ils espéraient probablement que personne ne sortirait et qu'il n'y aurait pas de manifestation. Et pourtant, elles n'ont jamais été aussi importantes en Pologne. Donc ils savent qu'ils doivent en tenir compte. Et puis, à l'image de la rue, leur soutien, leur électorat aussi se fissure. Ils sont affaiblis.
Et le problème, très concrètement, c'est qu'aucune juridiction ne surpasse le tribunal constitutionnel en Pologne. Donc on ne voit pas très bien quelle issue peut trouver cette crise, sauf à ne pas publier la décision au journal officiel et laisser pourrir le débat.
Pour l'instant, une impasse juridique donc dans ce dossier très politique à suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Marion pour cette enquête et les témoignages que vous avez recueillis qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux de cette mobilisation d'une partie de la société polonaise. À bientôt. Et on traverse toute l'Europe, direction le sud-ouest. On va rencontrer des gens qui télétravaillent depuis les Baléares. Quelle bonne idée!
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Travailler au soleil sur un site quasi de vacances, tout le monde en rêve. Eh bien, certains le font. On les appelle les digital nomads. En bon français, les nomades numériques. Avec un ordinateur portable et une bonne connexion Internet, ces travailleurs d'un nouveau genre peuvent vivre et voyager où bon leur semble. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux et ils représentent une chance pour certaines destinations touristiques qui sont en crise à cause de la pandémie de Covid. C'est le cas par exemple de Majorque aux Baléares, moins touchée par la deuxième vague de l'épidémie que d'autres régions en Espagne. L'île n'est pas confinée, on peut s'y rendre librement, même si à partir du 23 novembre, il faudra présenter à l'arrivée un test PCR négatif. Henri de la Guérie y a fait un saut cette semaine à Majorque. Rencontre avec des nomades numériques. Reportage.
Bienvenue à Majorca. Bienvenue dans le co-living Lucky Paradise.
Le Lucky Paradise, c'est une jolie villa sur les hauteurs d'une station balnéaire à 500 mètres de la plage. C'est Mathieu Zaylas, 28 ans, qui nous accueille. Un Parisien a ouvert ce co-living au mois d'août. Le co-living, c'est ce nouveau mode de vie communautaire qui allie colocation et espace de travail partagé. Ici, des travailleurs à distance, ce qu'on appelle les nomades numériques, séjournent quelques semaines ou quelques mois.
Donc là, ici, là, c'est la cuisine commune. Là, tu retrouves donc le co-working. Ça, c'est le premier espace. Ici, on a nos résidents, Xavier, Vanessa. On a la fibre optique, bien sûr. Ici, tu as les espaces de terrasse. L'avantage, c'est aussi qu'on est juste à côté de la mer. Donc, tu as une petite vue mer. Les gens aiment bien bosser depuis ici. On est à l'étage. Là, tu as à peu près 6 à 5 chambres. Et en bas, on a 3 chambres en plus. Donc là, c'est les espaces communs aussi. On a le grand jardin, l'espace de relaxation avec le barbecue, la tonnelle. Le temps reste quand même toujours top. Enfin, dans la journée, on est en t-shirt dès qu'il y a du soleil. Là, il fait, je crois, 23, 24. Donc ça fait plaisir d'être à côté de la mer.
En moyenne, il y a entre 5 et 10 résidents dans cette villa qui était un petit hôtel jusqu'à l'an dernier. Des Britanniques sont partis il y a 2 jours. La semaine prochaine, un Hollandais doit arriver. Pour occuper leur temps libre, les résidents ont le choix entre de nombreuses activités, yoga, découverte de l'île, atelier cuisine. Vanessa Guyot vit une partie de l'année en banlieue parisienne, mais elle a choisi de passer l'automne et l'hiver au soleil. Ancienne cadre en entreprise, cette jeune femme, spécialisée dans le recrutement, travaille désormais à son compte et d'où elle veut.
Sortir du salariat, en fait, ça m'a permis d'enlever toutes les douleurs qu'il peut y avoir avec, parce que vivre à Paris, c'est les transports, c'est le monde, c'est beaucoup de stress. En fait, je pars une bonne partie de l'année, souvent quand l'hiver arrive, bizarrement. Donc voilà, il fait bon ici, la situation est plutôt confortable, et c'était avant que le deuxième confinement démarre. Faut croire que j'ai bien senti le coup.
Favorisé par la crise du Covid, le travail à distance est de plus en plus recherché, surtout chez les moins de 40 ans et ceux qui n'ont pas d'enfants. Si certains bougent tous les mois, d'autres préfèrent s'installer plus durablement. Pour Vanessa, ce mode de vie n'est pas qu'un phénomène de mode.
Il y a beaucoup de directeurs, de start-up, de fondateurs qui en fait décident d'arrêter d'avoir des bureaux et de mettre en place du télétravail. Ils voient que c'est un vrai argument auprès aussi des nouvelles générations. Donc oui, ça va évoluer, et je le vois depuis le premier confinement. Il y a eu vraiment une croissance au niveau des demandes et même des emplois qui sont en 100% télétravail. On en a beaucoup plus qu'avant.
La pratique ne concerne plus seulement les métiers du web ou de l'informatique. Dans la communauté des nomades numériques de Lille, il y a un Canadien qui donne des cours d'anglais à distance, un Belge qui travaille dans le marketing. Une véritable révolution est en marche, selon Mathieu Zellas.
Les chiffres parlent pour eux-mêmes, 1 milliard de digital nomades d'ici 2035. Et tu vois pas mal d'hôtels qui sont déjà en train de se transformer pour les professionnels, voyant que le tourisme, le segment va mal. Demain, après le Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'échapper de chez eux ou de leur domicile ou de leur lieu de travail pour rejoindre des espaces comme les nôtres.
À 20 km de là, dans le centre de Palma, Paola Boublaï a elle aussi ouvert un immeuble de co-living Sunshine Embassy. Elle est convaincue que le nomadisme numérique est une opportunité pour une île comme Majorque.
Avec le Covid, une île comme Majorque se rend compte que l'industrie du tourisme n'est pas aussi sûre que ce qu'on croyait. Dans ce contexte, que peuvent apporter les nomades numériques à Majorque? Eh bien, créer un nouveau type de tourisme, différent de celui des vacances d'été. Ça va favoriser le tourisme de congrès et de grands salons, et puis ces travailleurs vont recruter sur l'île.
Bref,
ça peut avoir un impact considérable sur la croissance du PIB des îles Baléares.
À 26 ans, Paola a vécu un peu partout dans le monde et notamment dans la Silicon Valley. Elle est rentrée dans son île natale il y a seulement quelques mois.
Quand
j'ai compris que je pouvais travailler à distance grâce aux startups que j'ai fondées, j'ai décidé de rentrer à la maison parce que ça signifie être proche de ma famille et de mes amis. Je crois que c'est une des opportunités qu'offre le travail à distance. Pouvoir être à la maison, proche de ce qu'on aime et avoir un mode de vie plus équilibré.
Travailler au soleil, se rapprocher de son lieu de naissance ou s'installer à la campagne, le nomadisme numérique offre un éventail très large de possibilités tant qu'il y a une bonne connexion Internet. Certains territoires l'ont déjà compris et lancent des programmes pour attirer ces nouveaux travailleurs. Sur l'île de Majorque, Henri de la Guérie, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et Henri de la Guérie a regagné quant à lui ses pénates à Barcelone. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a bien compris dans votre reportage, derrière ce choix de travailler au soleil, ce concept du nomadisme numérique, il y a un vrai enjeu économique.
Et oui, hein, ces travailleurs à distance sont un formidable plan B pour toutes ces régions qui souffrent de l'effondrement du tourisme en Espagne. Mmh. Et d'ailleurs, plusieurs destinations cherchent à se positionner sur ce nouveau marché. Et les îles Canaries, un peu plus loin dans l'Atlantique, en face du Maroc, ont lancé une grande campagne de publicité pour attirer 30 000 télétravailleurs. Des aides fiscales sont accordées à tous ceux qui montent là-bas des espaces de coworking. À Majorque, Paola Boublaï et Mathieu Zellas, qu'on a entendu dans le reportage, veulent sensibiliser les autorités locales. Mais c'est vrai, les barrières administratives sont encore nombreuses, et surtout pour ceux qui ne viennent pas d'un pays de l'espace Schengen. Tudor a 27 ans, il est canadien et il est né à Bucarest, donc il a un passeport roumain. Il donne des cours d'anglais à distance depuis Majorque. Il gère également plusieurs business, dont des appartements Airbnb que possède sa famille à Calgary. Et pour lui, eh bien, l'Europe devrait faciliter l'installation de ses travailleurs.
Je pense que les États européens devraient avoir une plus grande considération pour ce nouveau type de travailleurs. Voir comment les attirer et faire en sorte qu'ils viennent chez eux pour dépenser de l'argent. Ces gens ne viennent pas pour profiter d'un système, ils viennent pour générer de l'activité économique. Ils travaillent ici, ils se logent ici, ils achètent de la nourriture, ils sortent, ils dînent dehors, ils vont boire des verres. La plupart d'entre eux qui travaillent à distance apportent de l'argent depuis leur pays. Ce sont donc des rentrées fiscales pour l'économie.
Alors Henri, vous avez mené une petite enquête. Il y a d'autres pays qui ont tout compris et qui font en sorte que les visas ne soient pas un frein pour les nomades numériques.
Exactement, il y a des États qui se sont déjà adaptés. L'Estonie a créé un visa numérique et avec ce sésame, eh bien, n'importe qui peut venir télétravailler pendant 12 mois dans ce petit État balte qui fait vraiment figure d'exemple à suivre pour beaucoup. Alors beaucoup plus loin, la Barbade aux îles, aux Caraïbes, les îles Maurice dans l'océan Indien ont lancé un visa du même type, plus proche de nous. Malte, qui accueille déjà de nombreux télétravailleurs, joue sur sa fiscalité pour les attirer.
Dans votre reportage, Henri, on entend une jeune femme originaire de Majorque qui vivait aux États-Unis, qui est retournée au bercail. Le travail à distance, c'est aussi ça, la possibilité de rester chez soi, mais pas forcément dans les grandes villes.
Oui, ça pourrait donc être une réponse au dépeuplement de certaines régions. Ces travailleurs que j'ai rencontrés ont choisi de vivre au soleil, mais par définition, ils pourraient s'installer partout. Oui, et donc, pourquoi pas à la campagne ou dans le village où on a grandi.
Et la pandémie, est-ce qu'elle accélère ce mouvement, évidemment ?
Oui, alors dans ce cas-là, le Covid est un mal pour un bien. La plupart des nomades numériques ne peuvent pas voyager en ce moment, ni s'installer où bon leur semble, évidemment. Par ailleurs, beaucoup de gens expérimentent par la force des choses le travail à distance et se rendent compte que c'est possible qu'on peut travailler et trouver un nouvel équilibre entre travail et qualité de vie. Et en même temps, évidemment, pour attirer ces nouveaux travailleurs, les nomades numériques, les régions doivent être assez épargnées par le virus. Personne ne va aller s'installer dans un cluster.
Bien sûr. Un dernier mot, vous avez été frappé, je crois, par le langage de ces travailleurs nomades que vous avez rencontré à Majorque.
Oui, c'est vrai, quelle que soit la langue dans laquelle il me parlait, français ou espagnol, c'était truffé de mots d'anglais. J'ai d'ailleurs dû faire un peu de traduction parce qu'il y a des concepts qui n'existent quasiment pas en français. Alors bien sûr, c'est leur langue commune dans cette auberge espagnole, l'anglais. Mais au-delà de ça, c'est comme s'ils avaient une langue à eux qui forge finalement leur identité. Parce que travailler à distance, ça ne signifie pas être seul et isolé. La communauté est très importante. Ouais. À Majorque, par exemple, ces travailleurs indépendants se connaissent quasiment tous. Et ils ne sont pas juste venus chercher le soleil. Ils veulent aussi trouver des gens comme eux, recréer peut-être l'ambiance que l'on trouve autour de cette bonne vieille machine à café du bureau. Vous savez, Sophie, ce bureau, ce concept du siècle dernier.
Oui, je vois bien. Merci. Et d'ailleurs, vous êtes un nomade numérique avant l'heure, un précurseur, Henri.
Effectivement, ça fait 12 ans.
Voilà. Merci pour cette petite bouffée d'oxygène. À très vite.
À bientôt Sophie.
À suivre, un bon conseil d'Eva Rock qui arrive avec une série télé qui raconte l'Amérique de Trump. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La culture aujourd'hui dans les carnets, c'est une série télé tout à fait dans l'air du temps. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Dans l'air du temps parce qu'on s'est tous plus ou moins mis à l'heure américaine ces dernières semaines. Or, cette série dont vous avez choisi de nous parler est inspirée de la vie politique américaine de ces quatre dernières années.
Exactement, ça s'appelle The Good Fight, que vous pouvez voir sur la chaîne Teva ou sur Amazon Prime Video. Alors, le pitch, il est très très simple. On est dans la vie d'un cabinet d'avocats à Chicago. C'est un cabinet d'afro-américains qui va recruter Diane Lockhart, qui est une femme très chic, la soixantaine, et blanche. Mmh. Et la série débute donc le jour de l'élection de Trump en 2016. Diane, elle est pro-Clinton et elle est persuadée de la victoire de la candidate, comme beaucoup. Sauf que quand le résultat apparaît, eh bien elle est sidérée. Mais vraiment, pour elle, quand je dis sidérée, c'est le monde qui s'effondre.
C'est une série qui choisit son camp.
Ah bah alors complètement. The Good Fight est une série anti-Trumpiste. Alors, pour précision, qui est quand même diffusée sur CBS, qui est la network la plus regardée outre-Atlantique. Mm-hmm. Et quand je dis anti-Trumpiste, je n'exagère pas. Petit exemple, dans l'épisode 7 de la saison 2, une élue démocrate débarque et, devant les avocats, leur fait part du projet du parti.
Nous vivons une époque très singulière. Oui, vous avez raison, il vaut mieux en rire. C'est la seule réaction saine par les temps qui courent. Ce que nous vivons, c'est une farce, pas une tragédie. Et le Parti démocrate, pour la toute première fois, a un plan pour répliquer. Là aussi, vous pouvez rire.
Ah, non, c'est bon.
Ce que nous espérons, c'est gagner en novembre prochain la Chambre des représentants et le Sénat. Et si c'est le cas, nous voulons être prêts à destituer le président Trump.
Et cette éventualité d'une procédure d'impeachment va se décliner sur plusieurs épisodes.
Est-ce que la série colle tout le temps à l'actualité comme ça ?
Oui, et c'est ça qui est savoureux d'ailleurs, avec cette dimension réaliste qui est extrêmement intéressante. Et puis elle a une qualité supplémentaire à mon sens, c'est qu'elle nous divertit aussi. notamment grâce au temps de la comédie qui est souvent employé, au même titre d'ailleurs ce que font les late shows en fait quotidiennement. Mais je me suis souvent demandé si on pouvait imaginer une telle série en France avec le président qui est vraiment nommé. Voilà, y a pas, on ne se cache pas derrière un personnage. Hein. Toujours dans la saison 2, écoutez bien, c'est une jeune femme russe qui fait appel à Diane, l'avocate. Elle a besoin de cette avocate pour éviter d'être expulsée des États-Unis. C'est l'assistante qui la reçoit et qui va découvrir son histoire.
Je vais être expulsée parce que je suis une des femmes filmées avec Donald Trump au Ritz de Moscou. Vous voyez de quoi je parle ? La vidéo de la douche dorée. Je n'aime pas qu'on donne ce nom-là.
Je reviens tout de suite. Diane, vous devriez voir la personne qui n'avait pas rendez-vous.
Pourquoi ?
Elle prétend être l'une des prostituées qui a uriné sur Trump à Moscou.
Alors l'épisode revient ainsi sur la fameuse séquence dite de la Golden Shower. On est dans un hôtel à Moscou, Trump et des prostituées se seraient adonnés à cette pratique sexuelle qui consiste à uriner sur son partenaire. Et puis comble, la scène se serait déroulée dans la chambre louée quelques mois auparavant par Barack Obama.
Ça se serait passé en 2013, avant que Donald Trump soit un homme politique. Et c'était l'une des allégations invérifiables contenues dans un rapport de 35 pages qui avait été publié en janvier 2017, donc juste avant que le nouveau président élu ne s'installe à la Maison-Blanche. Et plus grave, ce rapport accusait Trump d'être sous influence russe. Là encore, pas de preuves, mais ça accréditait les soupçons de piratage du Parti démocrate par les Russes pendant la campagne. On se souvient de tout ça. Hein.
Oui, exactement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans The Good Fight, c'est que la série, elle évoque plus largement l'influence russe dans la campagne de Trump. Elle ne s'en tient pas qu'à cet épisode de la Golden Shower. C'est un regard acerbe qui est très critique sur cette Amérique et qui est absolument fascinant, voire édifiant. Mmh. Alors dans la saison 3, je vous ai pris un autre extrait où on sourit un peu plus. Une mystérieuse cliente demande conseil par téléphone à une avocate. Elle envisage de quitter son mari. L'avocate ne connaît pas l'identité de la femme, mais va vite comprendre.
Le nouveau contrat stipule que je dois rester mariée plus longtemps, quelques années de plus, ou je n'aurai rien.
Je vois. Combien d'années encore ?
Je dois rester à ses côtés jusqu'en décembre 2020.
2020, oui, je vois. Et vous voudriez divorcer avant, c'est bien ça ?
Je ne sais pas. Je veux pouvoir choisir. Il y a tellement de pression.
D'où votre question sur l'iniquité, c'est bien ça ? Vous voulez savoir si le contrat peut être annulé ?
Oui, et ça concerne aussi des actes criminels. Je ne veux pas avoir de problème pour des choses qu'il a faites.
Alors cet épisode est absolument savoureux parce que ça va jouer évidemment sur le fait que ça soit ou pas Melania Trump, vous le verrez à la fin de l'épisode. Je vous conseille vraiment cette série qui fait preuve d'audace, qui affronte les sujets comme le Black Lives Matter ou encore l'ère post-MeToo. Les dialogues sont savoureux, je vous la conseille évidemment en version originale, et les interprètes sont formidables. La quatrième saison arrive bientôt en France, elle a été réduite à 7 épisodes à cause de la Covid, mais la saison 5 est déjà commandée.
Et là on se demande, comment vont-ils faire sans Trump ?
Mais alors c'est la vraie question, parce que est-ce que The Good Fight n'a pas perdu sa principale source d'inspiration. J'ai presque envie de dire, j'espère que oui. C'est à voir sur Teva et c'est sur Amazon Prime Video.
Bon, on a déjà 4 saisons à se mettre sous la dent. Merci beaucoup Eva et j'en profite à mes auditeurs. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Sériland, foncez, c'est un podcast chaque semaine porté par Eva Rock et sa bande avec beaucoup d'infos, des extraits, des thématiques, des interviews. Bref, c'est pour vous. À bientôt Eva.
À bientôt Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Chacun son tour. Après 7 mois et demi de restrictions, Buenos Aires est officiellement déconfiné. La courbe de nouveaux cas est en nette baisse dans la capitale argentine. Alors, il y avait déjà eu des assouplissements ces derniers mois. Les restrictions n'étaient plus aussi nombreuses qu'au début de l'épidémie. Mais tout de même, ce confinement est l'un des plus longs au monde et il a eu des conséquences sur la santé mentale des habitants de Buenos Aires. Ces derniers jours, la capitale retrouve enfin un semblant de vie normale. Les Argentins mettent le nez dehors, partagés entre soulagement et prudence. Écoutez ce reportage de la correspondante d'Europe 1, Haute-Villiers-Moriamé.
Cela faisait presque 8 mois que Patricio, 46 ans, n'était pas revenu sur cette petite place du nord de Buenos Aires. À ses pieds, son fils de 4 ans fait des montagnes de sable, émerveillé. Les aires de jeux pour enfants viennent tout juste de rouvrir dans la capitale.
C'est la première fois qu'on revient au jeu. Il était super content. À peine arrivé, il s'est jeté dans le sable. Après, honnêtement, ça me fait un peu peur qu'il y ait tant d'enfants. Et je n'en vois pas beaucoup qui sont masqués.
Les écoles de tout le pays, de la maternelle au lycée, sont restées fermées depuis la mi-mars, soit quasiment l'intégralité de l'année scolaire dans l'hémisphère sud. À Buenos Aires, elles doivent progressivement rouvrir au mois de novembre. Pour Mercedes, mère de 3 enfants, c'était devenu indispensable.
Ça a été un vrai défi pour tous de bien gérer la cohabitation, de continuer à travailler, de s'occuper en même temps des cours virtuels pour les enfants. Leurs amis leur manquaient beaucoup. Alors je crois que ce retour à l'école va leur faire du bien. Je pense que c'est vraiment sain pour tous, surtout d'un point de vue psychologique, de reprendre un peu la vie normale.
En attendant la reprise des cours en chair et en os, Mercedes et d'autres parents d'élèves de la même classe ont décidé d'organiser des matchs de foot une fois par semaine sur une place publique de la capitale. Alejandro, 11 ans, et Juan Martin, 10 ans, se réjouissent de pouvoir enfin se retrouver entre amis.
Au début du confinement, on pensait que ça allait être très court, 2 semaines. Donc on se disait que ce serait des vacances. On ne pensait pas du tout que l'école nous manquerait. Mais ça a été si long qu'on a commencé à fatiguer, à s'ennuyer.
Je ne suis jamais allé si souvent au parc, mais comme c'est le seul endroit ouvert maintenant, j'y vais tout le temps. Ça fait du bien de se retrouver, ça rend nostalgique. J'en profite pour sortir un peu de chez moi et ne pas passer toute l'année au même endroit.
Les enfants qui n'ont pas eu le droit de sortir du tout pendant les 2 premiers mois du confinement ont été très affectés psychologiquement par la pandémie, comme l'explique Claudia Borenstein, présidente de l'association psychanalytique argentine.
On reçoit beaucoup de demandes de consultation pour des enfants. Certains sont déprimés, n'ont pas envie de manger, dorment mal, se comportent mal. Personnellement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes pour que ces enfants se resocialisent, retrouvent le rythme de l'école. Pour moi, ce retour à l'école est assez urgent.
Les adultes aussi ont été très touchés par le confinement. Les demandes de consultation auprès de l'association psychanalytique argentine ont explosé.
Le téléphone a commencé à sonner de manière impressionnante. Le plus notable, c'était le sentiment d'angoisse. Les gens avaient des attaques de panique. Après ces premières angoisses, les personnes ont commencé à se déclarer déprimées, sans envie. On a remarqué beaucoup d'insomnie, de cauchemars, bien plus de demandes de médicaments psychotropes. On sait aussi que la consommation d'alcool et de drogue a augmenté. Et puis il y a eu beaucoup de consultations liées aux difficultés économiques de chacun. Et là, malheureusement, on ne peut que les écouter. Le confinement a été très long et chaque assouplissement, comme l'autorisation de sortir, de courir, a été vécu comme un immense soulagement.
À Buenos Aires, les salles de sport viennent tout juste d'être autorisées à rouvrir, mais beaucoup ont décidé de dispenser leurs cours à l'air libre. Le climat agréable du printemps austral facilite évidemment la chose. Une quinzaine de personnes suivent les mouvements d'une prof de fitness à l'énergie impressionnante. Parmi elles, Paola, 41 ans, qui était une grande habituée des salles de sport avant de se retrouver cloîtrée chez elle.
Pour moi, le sport est super important. Et ne plus pouvoir le pratiquer comme avant m'a beaucoup affectée. J'étais fatiguée de suivre des cours sur mon portable, à travers l'écran. J'avais surtout besoin de retrouver des camarades. C'est génial, c'est une expérience très gratifiante. Peu à peu, on recommence à vivre.
Autre nouveauté et pas des moindres, la possibilité pour les habitants de Buenos Aires de se réunir de nouveau chez leurs proches. C'était interdit depuis le 20 mars. Aujourd'hui, ils peuvent donc se retrouver, à condition que ce soit en extérieur, sur un balcon, patio ou terrasse.
Hola, soy Léa.
Ce mercredi soir, j'accompagne Léa, 26 ans, qui va boire un verre chez son amie Agustina, dans un quartier résidentiel de la capitale. Agustina, politologue, vit dans un studio où elle a passé tout le confinement avec son compagnon. Après des mois difficiles, elle retrouve progressivement une vie sociale.
D'un côté, je pense que les mesures prises ont été assez justes. Mais à mon sens, les autorités ont attendu beaucoup trop longtemps avant d'autoriser les réunions sociales. Alors que beaucoup de personnes se réunissaient quand même dans les faits. Moi, malgré les restrictions, j'ai commencé récemment à accueillir chez moi quelques amis en restant très prudente. J'ai aménagé mon balcon pour recevoir à l'air libre. Pour moi, c'est une bonne alternative pour maintenir sa vie sociale tout en continuant à faire attention.
Agustina veut rester prudente. Beaucoup d'Argentins redoutent qu'après une légère accalmie, vienne une deuxième vague, comme celle qui frappe l'Europe actuellement. À Buenos Aires, Aude-Villiers-Moriamé pour Europe 1.
Retour en studio et nous sommes en ligne avec Aude-Villiers-Moriamé depuis l'Argentine. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Dans le reportage, la psychanalyste Claudia Borenstein explique à quel point sa profession a été sollicitée. Plus de 7 mois, c'est très très long.
Et ouais, pour les Argentins, ça a été vraiment difficile. Hein. Et ce qui est surprenant, c'est que la question de la santé mentale a commencé à être abordée relativement tard durant ce confinement. Et pourtant, c'est un sujet qui est d'ordinaire pris très au sérieux dans le pays. L'Argentine compte le record mondial du nombre de psychologues par habitant, 222 en moyenne pour 100 000 Argentins. C'est entre 4 et 5 fois plus qu'en France. Hein. Ouais. Au début de l'épidémie, en fait, c'était surtout des infectiologues qui conseillaient le gouvernement. Et il a fallu attendre au moins 2 mois pour qu'on commence à parler du besoin de préserver le bien-être intégral des personnes. C'est seulement en juin, par exemple, que les habitants de Buenos Aires ont été autorisés à reprendre le footing. Et on a vu à ce moment-là à quel point les gens avaient besoin de se défouler. Énormément de personnes se sont ruées dehors.
Il faut rappeler, Aude, que c'est surtout Buenos Aires qui restait confiné tout ce temps.
Oui, alors Buenos Aires et sa grande banlieue, avec quand même de nombreux assouplissements ces derniers mois. Dans les autres provinces, il y a eu beaucoup d'allers-retours en fait concernant les restrictions, ce qui fait que tout le pays n'a pas vécu la situation avec la même angoisse. Un autre élément important à souligner, et dont me parlait bien la docteure Borenstein, c'est la résilience très forte des Argentins qui sont habitués aux crises, habitués à surmonter les difficultés, ce qui a aussi permis à beaucoup de tenir le coup.
Alors résilience, certes, mais quand même, c'est pas la situation économique du pays qui va leur remonter le moral. Hein. L'Argentine s'enfonce littéralement dans la crise.
Eh ouais, le coronavirus a eu des conséquences terribles sur l'économie, c'est le cas partout dans le monde, mais l'Argentine, elle traversait déjà une grave crise avant l'arrivée de la pandémie. Le nouveau gouvernement au pouvoir depuis un an comptait bien sur 2020 pour relancer la croissance. C'est raté, le chômage augmente énormément, la pauvreté explose, elle concerne plus de 4 Argentins sur 10. C'est d'ailleurs très visible à Buenos Aires, hein. De plus en plus de sans-abri dorment dans les rues, les commerces ferment à tour de bras. Le contexte économique est vraiment dramatique et oui, évidemment, ça pèse sur le moral des Argentins.
Alors ce confinement interminable, est-ce qu'au moins ça a marché? Quels sont les résultats?
Alors pour un pays qui se vantait d'avoir agi vite, eh bien le bilan est plutôt mauvais. L'Argentine est le 5e pays au monde à compter le plus de morts par million d'habitants. À titre de comparaison, la France est 13e. La stratégie argentine, surtout basée sur le confinement et le renforcement des capacités hospitalières, a permis dans un premier temps de ralentir la progression de l'épidémie. Et selon le gouvernement, aucun Argentin n'a manqué de soins médicaux. Mais certains professionnels de santé estiment qu'il n'y a pas eu assez de tests, ni suffisamment de traçage des cas contacts. Et à mesure que le confinement s'est assoupli, eh bien le virus a commencé à se propager de plus en plus vite. Au départ, les cas étaient surtout concentrés dans le Grand Buenos Aires. Mais à partir du mois d'août, l'épidémie a commencé à toucher fortement d'autres provinces qui s'étaient, elles, déconfinées et ont dû revenir en arrière. Au niveau national, la courbe de nouveaux cas semble enfin baisser, mais on compte toujours 200, 300 morts par jour et la situation reste tendue dans certaines régions, surtout dans le sud et dans l'ouest de l'Argentine.
Merci beaucoup, Aude, pour ce coup de projecteur sur l'Argentine. On espère que l'été qui démarche vous rendra ces moments plus doux. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Changement de décor. Stéphane Gladieux est mon invité dans un instant. Il est photographe et vient de publier un livre étonnant sur la Corée du Nord. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est une vadrouille bien particulière que je vous propose maintenant, une plongée dans un pays qui ouvre ses portes au compte-gouttes, un pays sous contrôle total, une dictature. Bienvenue en Corée du Nord. Et notre guide est photographe. Bonjour Stéphane Gladieux.
Bonjour Sophie.
5 voyages en Corée ces 3 dernières années, vous êtes un quasi habitué là-bas. Alors de la Corée du Nord, on nous laisse souvent voir les défilés militaires, les portraits du grand leader et de ses aïeux. On évoque son programme nucléaire, les famines qui ont touché la population. Vous vous montrez autre chose, vous êtes allé à la rencontre de ce peuple nord-coréen. 25 millions de personnes dans un système fermé donc et qui pourtant ne se soulève pas. Et à travers votre objectif, vous vous demandez qui sont-ils ces Nord-Coréens en quelque sorte?
Je me demande qui ils sont parce que par expérience, pour avoir beaucoup voyagé dans d'autres dictatures, je ne comprenais pas pourquoi en fait finalement celle-ci était encore debout. Alors qu'effectivement ils ont perdu comment, leur principaux soutiens politiques et économiques après la chute du mur de Berlin. Soumis à un embargo incomparable dans l'histoire et pas de révolution effectivement du peuple. J'ai cherché à comprendre et je pensais effectivement que la réponse tenait effectivement à la nature effectivement de ce peuple. C'est ce que j'ai cherché à faire à travers cette série de portraits.
Votre démarche photographique, elle a dû se glisser dans un cadre très particulier. Vous étiez sans arrêt accompagné de deux guides, d'un chauffeur qui contrôle un peu où vous allez, ce que vous faites, etc. En Corée du Nord, le statut de l'image, ses codes sont très différents de ce qu'on connaît ici. D'ailleurs, il y a très peu de photos, à part celles des leaders, des dirigeants.
Oui, effectivement, le portrait individuel en tant que tel n'existe pas, puisque tout est collectif. Je suis arrivé avec une proposition qui était vraiment une proposition artistique, de réaliser effectivement un portrait de la société nord-coréenne en réutilisant en fait les codes de la propagande nord-coréenne. L'objectif, ce n'était pas de rendre hommage à cette propagande, oui, mais bien de tenter de me rendre, dans une certaine mesure, lisible par mes hôtes, et en même temps de pouvoir, avec le dispositif du studio portatif, surjouer justement cette codification pour en montrer toute cette folie, ce surréalisme absolu.
C'est-à-dire que vous arrivez avec des trépieds, quelques lampes et un studio que vous devez monter très très vite parce que c'est pas non plus...
J'ai deux ou trois flashs portables, mmh, indépendants qui sont sur des pieds, des flashs de mode. Je les utilise dans la rue ou dans des lieux fermés, usines, écoles, hôpitaux, où je choisis une personne et je l'associe à un fond, où, ouais, je choisis un fond et je trouve la personne avec laquelle je souhaite photographier devant celui-ci. Donc c'est vraiment une association entre une personnalité et un lieu. Mmh. Mais ce que je photographie existe. Et c'est bien ça le plus fou, c'est-à-dire que c'est réel.
On a l'impression qu'ils sont tous en uniforme, que ce soit les enfants qui sont en train de jouer, les étudiants, que ce soit les paysans dans les champs. On a l'impression qu'ils ont un uniforme, qu'ils sont nickel. Il n'y a pas une tache de boue dans les champs. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression qu'ils sont endimanchés, vous voyez, pour votre photo.
Alors, ils sont endimanchés, mais pas pour ma photo. En fait, l'esthétisme est une valeur fondamentale en fait en Corée. Et quand je dis Corée, j'entends Corée du Sud, ouais, et Corée du Nord. Effectivement, ils sont impeccables. Ils sont toujours impeccables. Quand je les prends dans la rue, personne n'a été prévenu, donc ils sont impeccables. Dans les usines, ils sont impeccables également, à l'exception effectivement de la sidérurgie.
Dans un centre sidérurgique, non, il y en a deux qui sont propres, voilà, et ils ont des costumes blancs dans un atelier de sidérurgie.
Et là, ils ont été changés.
Il y en a un qui a une petite tache.
Ils se sont changés avant, très certainement. Ouais, ouais. Ça, c'est certain. En revanche, celui que j'ai pris, sur la gauche, lui, non. On a l'impression finalement que je photographie le même homme et la même femme quasiment, ouais, au fil des pages. Mmh. En même temps, l'habit correspond au statut social. L'instituteur est habillé en instituteur. Le fonctionnaire en fonctionnaire.
Ouais, le personnel médical, on a l'impression que c'est un uniforme qu'on achète pour les petites filles d'infirmières. Ils sont tous... effectivement, c'est très codifié.
Il y a une très grande théâtralisation de la vie, en règle générale, en Corée du Nord.
Vous expliquez dans le livre que vous êtes finalement entré dans un monde où la perfection est une quête absolue.
Ah mais c'est une quête absolue, c'est-à-dire que...
Indépendamment des photos...
Ah non, mais
la quête de la perfection,
voilà, c'est propre à leur culture et c'est pas lié à une volonté politique ou directement en fait finalement au système dictatorial qu'ils ont mis en place. Une rizière drainée, la terre va être moulée sur un chantier. Quand on part le soir, on va mouler le tas de sable
pour qu'il soit bien,
on laisse pas en vrac
pour que ce soit beau.
La rue est plus propre qu'en Suisse. Les pelouses sont taillées au sécateur. Il y a une obsession de l'esthétisme, mais il y a une obsession aussi que les choses soient absolument parfaites et accomplies. C'est-à-dire, par exemple, on m'a refusé de photographier un sculpteur parce qu'il n'avait pas fini sa sculpture. On voulait bien que je le fasse, mais avec une sculpture qui était déjà polie, finie, ça n'avait aucun sens pour moi.
Il faut que tout soit parfait.
Il faut que tout soit parfait. Et par exemple, sur le contrôle que j'ai pu subir, il m'est arrivé qu'on me refuse des gens que je souhaitais portraitiser dans la rue. Je, ouais, me suis fâché en disant, mais pourquoi, ouais. Et il dit, mais tu ne peux pas photographier cet homme, il est trop laid. Je dis, non, mais c'est très subjectif. Ah non, c'est pas subjectif. Quand on est laid comme ça, on sait qu'on est laid. Donc si je vais le voir pour lui demander d'être comment pris en photo, je le mets face à sa propre laideur, et ça c'est amoral, je ne peux pas être amoral. Et l'effet photographique du rendu final est plus puissant avec l'homme qu'ils ont finalement choisi indirectement qu'avec mon premier choix. Et ça, on l'a sur plusieurs images. Et ça montre bien que finalement, même en adoptant les codes de la propagande nord-coréenne, je restais incompréhensible pour eux parce que nous n'avons pas les mêmes références culturelles, sociales, historiques.
Le choix de travailler avec des lampes justement de mode, comme vous disiez tout à l'heure, un matériel qui normalement n'est pas adapté à des photos comme ça qui sont prises dans des usines, dans des fermes collectives, etc. Ouais. C'est un choix aussi esthétique.
C'est un choix esthétique pour rendre beau. C'est un choix esthétique déjà qui leur plaît parce que je rends beau, mais qui fait partie de ma photographie, qui, je pense, est vraiment tournée vers l'humanisme. Et effectivement, je tiens à rendre une certaine dignité aux gens et effectivement à les sublimer.
Il y a très peu de sourires.
Mais le sourire est avant tout une valeur occidentale. Le sourire en Orient est souvent un signe de gêne, plus qu'un signe de joie ou de gaieté.
Vous dites que vous avez vécu là-bas une sorte de détoxication visuelle, parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas de...
C'est insensé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas, ouais, de panneaux de circulation, pas de signes publicitaires, pas de nom de rue quasiment, pas d'enseigne sur les magasins ou très peu. Donc effectivement, vous êtes dans un univers totalement surréaliste. Et encore une fois, totalement théâtralisé. On a quasiment l'impression d'être dans une telenovela mexicaine, dans un décor de cinéma. Et pourtant, c'est leur réalité.
Vous remerciez les représentants de la Corée du Nord en France et puis vos guides sur place. On imagine que vous avez tissé des liens quand même un peu particuliers.
J'ai tissé des liens de confiance avec deux de mes accompagnants. Au fil du temps, en fait, il y a une forme de confiance qui s'est instaurée et de dialogue. Parce qu'ils ont participer indirectement à ce projet en me permettant de faire des choses ou en m'empêchant à faire des choses. Mais il y a finalement un lien et une forme de relation miroir entre nous, effectivement, qui a eu lieu au cours de tout ce projet.
Votre livre s'appelle « Corée du Nord ». Il est publié par Actes Sud et c'est vraiment un très beau livre que j'encourage les gens à cliquer et collecter dans leur librairie. Et puis je renvoie sur votre site www.stéphanegladieu.fr. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup, Sophie.
Notre prochaine destination dans quelques instants, c'est l'Autistan. On va appeler Joseph Chovanec.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Après la Corée du Nord, encore une destination rare dans les carnets, mais nous on y va toutes les semaines, c'est l'Autistan, où nous guide Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur, vous nous emmenez en balade chaque dimanche et aujourd'hui on se pose sur les frontières.
Oui Sophie, un certain nombre de gens disent que pour le virus comme pour tout le reste, il faudrait fermer les frontières. Il y a toutes sortes de débats d'idées là-dessus, mais je suis terre à terre observateur, j'adore regarder les frontières, c'est mon activité autistique préférée, et je remarque beaucoup d'anomalies ou de particularités.
Comment ça, des anomalies sur les frontières?
Ben, par exemple, l'exclave ou l'enclave, c'est quand un morceau de territoire est séparé du reste. Et pour avoir un choc, il faut se rendre dans l'un des endroits les plus curieux du monde, à savoir la commune de Baarle-Nassau ou Baarle-Hertog. Elle a deux noms justement, car on ne sait pas si elle est hollandaise ou belge. Sur la carte de l'Europe, à cet endroit-là, vous verrez une frontière brouillonne, comme si le logiciel de cartographie était devenu fou.
C'est comme un petit labyrinthe entre deux pays, c'est ça?
Mais exactement, c'est le terme utilisé. Et voir ce labyrinthe, c'était un rêve d'enfance. Je suis retourné dimanche dernier à vélo, bien sûr, pour faire comme les gens du coin. Pour y arriver, vous devez déjà traverser la frontière un grand nombre de fois. Et les maisons sont construites souvent à cheval sur la frontière. Donc si on ferme la frontière, vous ne pouvez plus aller dans votre cuisine. Mais il y a plus curieux encore. À cause des restrictions Covid, ce qui est autorisé dans un pays peut être interdit dans l'autre.
Ce qui est embêtant dans un même village.
Où ça ouvre des possibilités. Ouais. Par exemple, la fameuse brasserie des Biergrenz, donc littéralement frontière à bière. Dimanche, à cause des restrictions côté hollandais, l'entrée hollandaise était fermée. Les clients faisaient le tour du bâtiment et rentraient côté belge. On se demandera pourquoi ces complications. C'est simple, lors du tracé de la frontière, on a laissé chaque famille, chaque maison décider.
Et donc la frontière est complètement en zigzag?
Exact. Et je crois qu'on peut encore retoucher le système. Ouais. Par exemple, votre taxation dépend de votre porte. Donc, il y a des gens qui murent leur porte d'entrée et en percent une autre. D'accord. Parfois, c'est tout un terrain qui bascule. La première exclave que j'ai traversée dimanche, c'est le territoire H17. Ah non, c'est pas un nom de virus. C'était en fait le terrain d'un négociant, Van den Einde. Lui, il jugeait les impôts trop lourds aux Pays-Bas. Donc, il a proclamé sa maison forestière territoire belge. Et la justice l'a reconnu en 1957, de quoi faire rêver, notamment en période de confinement.
Et cette semaine, vous êtes aussi allé, Joseph, explorer une autre anomalie de frontière, cette fois en Allemagne.
Oui, entre Aix-la-Chapelle au nord et le Luxembourg au sud, si vous regardez votre carte, vous remarquerez une frontière bizarre. Quand j'étais ado, je croyais à des bugs d'impression. Mais non, derrière, il y a une drôle d'histoire que j'ai enfin pu voir de mes propres yeux hier.
Racontez-nous cette histoire, Joseph.
Mais à la fin du 19e, on a construit une voie de chemin de fer à travers le terrain très difficile des tourbières d'altitude du massif des Hautes-Fagnes. Après la Première Guerre mondiale, on a assigné ce chemin de fer à la Belgique. Comme la Belgique n'a pas annexé les territoires allemands qui entourent la voie, un étroit ruban de terre belge court à travers l'Allemagne sur une bonne centaine de kilomètres. Alors, de nos jours, il n'y a pas de train, mais la fameuse Fennbahn, c'est devenu une piste cyclable et je l'ai empruntée. La largeur du territoire belge par endroit n'est que de 2 ou 3 mètres et vous avez cette sensation jubilatoire de voyager longuement en Allemagne, de rencontrer des gens, mais sans y mettre les pieds si vous ne le souhaitez pas. Le clou du spectacle, c'est quand la voie belge croise l'autoroute allemande. À cet endroit, les frontières nationales sont superposées. En bas, vous avez un territoire belge, au-dessus de votre tête, un territoire allemand. Habiter dans ce type d'endroit qui ne peut que rester ouvert, c'est très rassurant à mon avis. Ça apporte la preuve que l'être humain n'a pas vocation à vivre enfermé.
Ça c'est sûr. Et puis vous en profitez à fond avec votre vélo, j'ai l'impression.
Ah, tout à fait.
Merci beaucoup Joseph, je vous dis à dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et allez donc voir sur une carte les dédales de ces frontières labyrinthes, ça vaut vraiment le coup. C'est l'heure de refermer les carnets, merci de nous avoir accompagnés. Vous trouverez les infos sur les reportages et le podcast sur la page de l'émission sur europe1.fr. Et voilà Nicolas Caro qui s'installe. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Place à la littérature avec quel invité aujourd'hui? Quelle visite aussi?
Alors là, on va planter les piolets dans une montagne littéraire puisque George Orwell entre à la Pléiade avec 1984 notamment. Et donc on va lui dire bonjour, on va s'intéresser à lui.
La voix est libre, c'est dans quelques minutes. Après les infos, bonne émission
à
Nicolas. Un grand merci à l'équipe. Marc Fréjean à la réalisation des carnets, Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.